Et Claude, on en parlait tout à l'heure à 7h50 avec Cédric Villani, on parle de Maurice Audin ce matin.
Ce mathématicien enlevé, torturé et tué par des soldats français pendant la guerre d'Algérie, et dont Emmanuel Macron, au nom de la République, vient donc de reconnaître dans un communiqué le supplice. Le crime d'État est enfin reconnu, dit l'Humanité, tandis que le Monde évoque une décision historique. Et le Monde, comme l'Humanité, compare la décision d'Emmanuel Macron au discours du Veldiv de Jacques Chirac, qui avait reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Tout ceci, notez-le, est sur Internet. C'est sur Internet que vous lirez Le Monde, l'Humanité et la plupart des quotidiens nationaux, en tout cas, en raison d'une grève. Mais Internet, justement, qui a de la mémoire, est le bon médium pour appréhender ce moment, pour rendre d'abord justice au travail de l'Humanité dont Audin fut une cause depuis des années. Vous relirez ainsi ce témoignage paru plus tôt dans la semaine d'un vieux monsieur béarnais qui avait été jadis un jeune soldat terrifié par les exactions, les tortures et les viols commis par des militaires en Algérie, il en était le témoin. Dans les archives du Monde, il suffit d'un clic. Vous retrouverez un article daté du 8 juillet 1957 qui donne aujourd'hui le vertige. Il est intitulé « À propos de deux disparitions à Alger ». Je cite « Madame Maurice Audin, adjointe d'enseignement au lycée Gauthier à Alger, nous informe de la disparition de son mari, Monsieur Maurice Audin, assistant à la faculté des sciences. » Et on entend dans cet article l'inquiétude d'une jeune femme à laquelle l'armée assurait que son époux, arrêté le 11 juin, s'était évadé. « Or, il m'est impossible de croire, disait-elle, que mon mari se soit évadé. Mon mari n'est pas un sportif. Je suis intimement persuadée qu'après avoir passé 10 jours entre les mains des parachutistes, il était dans un état physique lui rendant impossible une évasion. Je suis extrêmement inquiète et je me demande si mon mari est actuellement en vie. » Archive incroyable. C'était en juillet 1957. Effectivement, Maurice Audin, quand Madame Audin parlait, était décédée. Et aujourd'hui, Madame Audin, si vieille dame, recevra tout à l'heure la visite d'un président de la République, 61 ans, 3 mois et 2 jours après que Maurice ait été arrêté.
Il est 8h49, la croix, Claude, la croix revient ce matin sur la pédophilie dans l'église.
Et le grand quotidien catholique n'en finit pas d'explorer la honte, et ce n'est pas facile de se regarder en face, que l'on soit un pays, la France avec la torture, ou une institution. Et l'église blessée réagit en bureaucratie dans un grand sommet qui sera consacré aux abus sexuels en février prochain. C'est la une du journal qui parle d'un état d'urgence, l'urgence ou la forteresse assiégée. Dans les pages courrier de la croix, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres, défend l'institution du célibat qui n'est pas responsable, dit-il, des déviances de prêtres. Et on saisit en lisant la tragédie ou la dichotomie du catholicisme organisé, d'un côté assiégé de scandales, mais qui ne peut s'y reconnaître. Le cinéaste Wim Wenders a réalisé un documentaire sur le pape que le Monde exécute comme une œuvre de propagande, indigne de son auteur. Mais Wenders aime le pape François et dans Les Échos, il affirme « Si l'Église n'est pas capable de transparence sur la pédophilie, c'est parce que les conservateurs empêche le pape. Ainsi, la majorité républicaine entravait Barack Obama au Congrès. La foi assiégée sauve-t-elle ou les valeurs consolent-elles de la tâche ? La croix s'attarde avec un géant des lettres portugaises nommé Gonçalo Tavares qui, dans un roman, s'illumine d'une jeune trisomique. La vie, l'hebdomadaire catholique, raconte un médecin français, un saint profane, qui part au Vietnam soigner, réparer des accidentés de la route. Et l'hebdomadaire La Vie titre sur la grande pauvreté en ce jour d'un plan gouvernemental, tandis que dans Ouest-France, un évêque cite Hegel pour nous expliquer pourquoi la pauvreté ne peut pas être réduite dans nos sociétés à la fois trop riches et trop pauvres. Comment être aimable et intelligent pour se faire pardonner.
Vous nous parlez du patrimoine, enfin.
Avec les journées du même nom qui arrivent, et décidément, on peut sauver toutes les églises de France, nous dit Stéphane Bern dans La Croix. Mais il n'y a pas que les... Dans La Vie, pardon. Mais il n'y a pas que les églises médiévales ou les beaux châteaux. Et il faut lire, il faut lire. Dans Télérama, Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des monuments historiques, donc le gardien de notre mémoire, et qui nous explique revigorant que le patrimoine, c'est tout ce qui témoigne de notre vie et que la modernité ou les promoteurs menacent d'effacer. Gattier entonne donc un requiem à l'insolence magnifique des cités HLM des Trente Glorieuses que l'on fait imploser en direct au journal de 20h. Il nous chante la splendeur sauvée de la tour Lénine à Ivry-sur-Seine. Il entonne une action de grâce, l'architecte, parce qu'on a sauvé à Reims les halles du Boulingrin, superbe parabole en béton des années 20, sauvée aussi à Montrouge. Au bout de la ligne 4 du métro parisien, où l'architecte voudrait nous emmener, l'église Saint-Jacques. Un parallélépipède inachevé de béton austère, mais où l'on trouve tout au fond caché, à l'arrière d'une scène de Transfiguration du Christ, une fresque qui raconte le retour des déportés dans un décor de HLM et de lignes à haute tension. Le béton abrite notre mémoire. Et on comprend alors que le patrimoine, ce n'est pas simplement le musée, pas seulement la pierre, pas seulement les tissus, mais tout ce que nous retenons du temps qui file. Télérama nous parle aussi de Jacques Brel, qui ne nous quitte pas et qui faisait venir du foie gras et du champagne dans sa retraite des Marquises. Le patrimoine n'est pas la légende pieuse. On nous parle ailleurs, j'en termine, d'un autre chanteur, Rachid Taha, disparu avant ses 60 ans. Il était la plupart du temps attifé comme une descente de lit dans ses cuirs tannés de rocker des sables, ses boucles oranais, sa dégaine de boxeur dont le dernier match était sans cesse repoussé. Il est beau, Rachid Taha, dans le journal suisse Le Temps. Taha fut par la douce France qui est orpheline, nous dit l'humanité, un moment de fraternité, mais il était tout surtout, rappelle le Parisien, le plus grand de nos rockers, et c'est cette vérité qui ressort aussi dans un texte sublime de Libération intitulé « Le feu fêlé ». Comme le feulement du fauve, où l'on parle du punk et de musique cradingue. C'est magnifique. L'Est républicain lui se souvient que Taha fut un enfant espiègle dans les Vosges. Je l'ai gardé dans mon cœur.
Merci Claude pour cette revue de presse.